Il est 4h en temps universel, 5h ici à Paris. L'heure d'un nouveau journal. Bonjour Martin Guèze.
Bonjour Arthur Ponchelet et à tout à l'heure et bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'écoute de RFI, nous sommes le samedi 15 mars 2025. Voici les titres de l'actualité internationale ce matin. De très bonnes discussions entre Washington et Moscou selon Donald Trump. Le président américain se veut optimiste quant à sa proposition de cesser le feu en Ukraine. Il appelle d'ailleurs Vladimir Poutine à épargner la vie de milliers de soldats ukrainiens, des soldats en difficulté dans la région de Koursk, reconnaît le chef de l'État ukrainien Volodymyr Zelensky. En Serbie, journée cruciale pour la mobilisation anticorruption dans le pays. Des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes attendues à Belgrade, venues de tout le pays. Le président Aleksandar Vučić est de plus en plus menacé. Marine Le Pen, qui travaille sa stature internationale, la chef de file des députés Rassemblement National, est au Tchad. Elle est arrivée à N'Djamena ce vendredi. Enfin, l'actualité est de plus en plus angoissante sur RFI comme ailleurs. Les adolescents français en font les frais. Plus de 30% d'entre eux se disent angoissés par les nouvelles du monde. De très bonnes et productives discussions entre Washington et Moscou, selon les mots de Donald Trump. L'émissaire américain Steve Witkoff, qui était dans la capitale russe pour évoquer la proposition américaine de cesser le feu en Ukraine. Donald Trump estime qu'il y a de grandes chances que cette guerre terrible et sanglante prenne fin. Déclaration faite sur son réseau social Truth Social. Il a aussi appelé son homologue russe à épargner la vie de milliers de soldats ukrainiens sur le front.
Il y a de bonnes nouvelles qui viennent de Russie. Nous entendons de bonnes choses, qui sait, mais nous entendons de bonnes choses. Ils sont dans une position très forte militairement, avec pas mal de soldats ukrainiens, mais j'espère que rien ne se passera. Je leur ai demandé de ne rien laisser se produire, et je pense et j'espère que rien ne se passera.
Vladimir Poutine a lui appelé les combattants ukrainiens à la reddition. S'ils déposent les armes et se rendent, leur vie sera garantie, a-t-il certifié, se disant sensible à l'appel de Donald Trump à ce sujet. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui reconnu que la situation dans la région de Koursk était très difficile, mais que ses soldats s'y battent de manière absolument héroïque. Emmanuel Macron a exhorté la Russie à accepter la proposition de cesser le feu de 30 jours et à cesser ses exactions en Ukraine, ainsi que les déclarations dilatoires. Quand le Premier ministre britannique Keir Starmer accuse lui Vladimir Poutine de ne pas prendre la paix au sérieux, il pointe le mépris total du Kremlin pour cette proposition de cesser le feu. L'Europe, au soutien de l'Ukraine, notamment l'Allemagne, la voie est libre pour sortir de l'orthodoxie budgétaire et pour lancer le plan géant d'investissement du futur chancelier Friedrich Merz. Le leader des conservateurs de la CDU qui a trouvé un accord politique hier avec les écologistes et les sociodémocrates pour l'adoption mardi devant le Parlement de son plan Bazooka, une relance de plusieurs centaines de milliards d'euros, programme de dépenses sans précédent pour relancer la première économie d'Europe, un plan de 500 milliards sur 12 ans, des réformes d'ampleur pour les dépenses militaires et pour les régions. Nathanaël Vitran, c'est une véritable révolution budgétaire.
Car le plan Merz prévoit de financer une augmentation du budget de l'armée allemande sur fond de désengagement américain par le recours à l'emprunt. Or, dans la foulée de la crise financière de 2008, l'Allemagne avait ancré dans sa constitution un frein à l'endettement, limitant fortement les capacités d'emprunt de l'État et des Länder. Pour contourner l'obstacle, le texte défendu par Friedrich Merz prévoit de sortir du calcul toutes les dépenses de défense supérieures à 1% du PIB. Une révolution après 20 ans d'orthodoxie budgétaire. Mais face au rapprochement de Donald Trump et de Vladimir Poutine, et alors que l'industrie allemande souffre à son tour, les conservateurs qui devront gouverner avec les sociodémocrates se sont convertis au keynésianisme. Autrement dit, l'heure est à la relance. Outre des investissements dans la défense, le plan prévoit de moderniser les infrastructures vieillissantes du pays, y compris en redonnant aux Länder, les grandes collectivités locales, le droit de s'endetter. Concession majeure obtenue par les écologistes, 100 milliards d'euros, soit un cinquième du plan, seront consacrés à des mesures sur le climat.
Nathanaël Vitran du service économie de RFI. On reste en Europe, direction la Serbie. Des dizaines, peut-être des centaines de milliers de personnes attendues ce samedi à Belgrade à l'appel des étudiants du pays pour une nouvelle journée de manifestation. La mobilisation anticorruption dans le pays qui dure depuis plus de 4 mois, la pression s'accroît sur le président Aleksandar Vučić. Au pouvoir depuis 13 ans, un pouvoir fragilisé qui mobilise aujourd'hui des policiers anti-émeutes dans la capitale. Le commissariat de l'ONU aux droits de l'homme qui redoute des dérapages et qui appelle les autorités serbes à la mesure. Les étudiants, eux, s'organisent. Ils ont tout prévu en cas de situation d'urgence. Envoyé spécial de RFI à Belgrade, Jelena Tomić.
L'une des particularités de ce mouvement étudiant, c'est l'organisation, l'anticipation et le sens des responsabilités. En tant qu'organisateur des plus importantes manifestations qu'ait connu le pays, chacune des facultés agit dans son domaine de compétences. Alors que Belgrade se prépare à accueillir un nombre record de manifestants, les étudiants en médecine ont lancé une collecte de dons de matériel médical pour intervenir en cas d'urgence. Mina est étudiante en 6e année de médecine à la faculté de Belgrade.
Nous avons lancé cette action car il va y avoir beaucoup de monde, ce qui peut augmenter le nombre de blessures, aussi bien chez les manifestants que chez nos camarades marcheurs et cyclistes qui arrivent dans la capitale. Beaucoup de gens ont répondu présents à notre appel, à tel point que nous n'aurons peut-être pas besoin d'engager tout le monde, mais tous sont les bienvenus. Pour le matériel médical, on espère avoir davantage de dons, car il n'y en a jamais assez.
Devant l'Institut d'anatomie, d'autres étudiants s'activent à peindre une gigantesque banderole portant l'inscription en grosses lettres noires « Bienvenue à Belgrade ». Yelena Tomic, Belgrade, RFI.
RFI 6h06 à Gaza, le Hamas se dit prêt à libérer un otage israélo-américain ainsi que 4 dépouilles, proposition vue comme une manipulation côté israélien. Et ce alors que les négociations pour la poursuite de l'accord de trêve avec Israël sont toujours au point mort. Le mouvement islamiste palestinien qui dénonce le blocage de l'aide humanitaire par l'État hébreu qui n'arrive plus dans l'enclave depuis plus de 10 jours. Israël qui prive aussi Gaza d'électricité. La situation sanitaire des Gazaouis toujours plus alarmante pour Mara Bernashkoni, responsable des politiques de l'ONG Handicap International en Palestine, de retour de Gaza.
There are ruins everywhere.
Il y a des ruines partout. En fait, il n'y a rien. Il y a des gens qui marchent dans la rue, qui marchent, qui marchent, qui marchent. Il n'y a pas de carburant, il n'y a pas de voiture, il n'y a rien. Donc les gens doivent subvenir à leurs besoins de base en allant d'un lieu de distribution à un autre. Et quand j'étais là-bas, les distributions avaient encore lieu car le cessez-le-feu venait de commencer et l'aide commençait à augmenter. En décembre 2024, on est passé à 500 camions par jour d'aide humanitaire juste après la signature du cessez-le-feu. Et maintenant, l'aide a de nouveau été bloquée. Il y a des blocus depuis presque 15 jours. Il n'y a pas d'électricité, pas d'eau, pas de carburant, pas de nourriture, pas de médicaments. L'aide humanitaire est utilisée comme une monnaie d'échange, sans raison. Quel que soit l'accord de cessez-le-feu, cela ne devrait en aucun cas être lié à l'assistance humanitaire.
Not in any way linked to the humanitarian assistance.
Des propos recueillis par Théo Renaudon, Mara Bernakochny, qui revient aussi sur les conditions de vie des 110 000 personnes handicapées à Gaza. Entretien à lire sur la longueur sur notre site internet www.rfi.fr. Marine Le Pen est au Tchad. La chef des députés du Rassemblement National, parti français d'extrême droite, est à N'Djamena pour une visite de travail. Elle a été accueillie à sa descente de l'avion par Aziz Mohamed Saleh, le président général du MPS, parti du président Mahamat Idriss Déby. Une visite discrète pour travailler sa stature internationale dans un moment de rupture marqué par la fin de la coopération militaire entre les deux pays. Raphaël Delvolvé.
Fidèle à sa ligne souverainiste, Marine Le Pen assure vouloir retisser des relations sur la base d'un respect mutuel. Si l'armée française est récemment partie du Tchad et d'autres pays du continent, le parti d'extrême droite pointe la responsabilité du pouvoir français et les changements de pied, dit-on, incessants du président Macron. On s'est fâché avec le monde entier à cause de lui, répète-t-on dans l'entourage de la finaliste de la dernière présidentielle française. Cette posture trouve évidemment un écho à N'Djamena et donne aussi à Marine Le Pen une occasion de se tailler une stature de femme d'État à l'international. Elle a d'ailleurs prévu d'évoquer les crises africaines au Soudan voisin, mais aussi en République démocratique du Congo. Les élus RN demandent depuis de nombreuses semaines maintenant des sanctions contre le Rwanda. C'est le second voyage de Marine Le Pen au Tchad. Le premier remonte à 2017, alors en pleine campagne présidentielle. Idriss Déby était alors le premier chef d'État africain à la recevoir sur le continent.
Raphaël Delvolvé du service politique de RFI. L'actualité, source d'angoisse sur RFI comme sur les autres médias. Constat réalisé par le baromètre Ipsos en France, notamment chez les plus jeunes. 31% des adolescents sont angoissés par l'actu, un chiffre en nette progression. Constat qui se vérifie à la sortie des lycées comme celui de Clichy, au nord de Paris, où s'est rendu Mathias Troude.
Adossé à une barrière à l'heure de la récré, Enzo et ses amis ne sont pas étonnés par ce qu'indique le baromètre.
C'est la merde en ce moment. Entre Trump qui est devenu président...
Et encore, l'étude a été menée avant le retour de Donald Trump à la Maison Blanche.
Sachant que même Vladimir Poutine il veut déclarer la guerre à la France, si on part sur ça, ça va être la Troisième Guerre mondiale. et on aimerait éviter tout ça, quoi.
Entre la guerre en Ukraine, celle à Gaza et le réchauffement climatique, les sujets anxiogènes ne manquent pas, mais selon le baromètre, ce sont les violences faites aux enfants qui inquiètent le plus les ados.
En fait, on vit dans un monde où il y a du danger partout. Bon, je retourne un peu en arrière, mais la disparition du petit Émile, c'était quand même un garçon de 2 ans, et un garçon de 2 ans, il a même pas eu le temps de vivre sa vie, quoi.
De quoi créer des troubles de l'anxiété chez près d'un jeune sur deux. Cet élève de première essaye de prendre la vie du bon côté.
On essaie de profiter de la vie, oui, tant qu'on peut. Parce que s'il faut partir en guerre, personnellement, j'ai pas envie. Mais voilà, quoi, on profite. On essaie de pas penser à tous ces problèmes en France.
Les ados ont tendance à rester seuls face à leurs problèmes de santé mentale. Seulement 3 sur 10 en parlent à des professionnels de santé.
Allez, une actualité un peu moins angoissante pour finir. L'affiche de la finale d'Indian Wells chez les femmes, c'est du tennis. Et si la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka, a tenu son rang, la numéro 2, Iga Świątek, a été surprise par une ado de 17 ans, la russe Mira Andreeva, qui renverse la polonaise en 3-7. Sabalenka, Andreeva, finale demain en Californie, RFI, 5h11, ici à Paris, lors d'un petit tour d'horizon en langue française.
RFI, toute l'actualité.
Martin Guez.
Et c'est donc parti pour notre tour du monde de l'actualité du monde francophone. On va parler d'espionnage entre la France et l'Algérie. On va parler du nouveau chef du gouvernement canadien, Mark Carney. C'est à la une cette semaine de l'accent des autres, présenté par Olivier Denderland.
L'accent des autres avec les médias francophones publics.
Bienvenue, voici donc l'actualité de la semaine avec les partenaires des médias francophones publics, la Radio-Télévision Suisse, Radio-Canada, RFI, ici et la RTBF. Et on va commencer avec une affaire d'espionnage au moment où les tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie sont au plus haut. On apprend qu'un employé du ministère français de l'économie a été mis en examen en décembre dernier, et cela, Nicolas Sûr, pour espionnage au profit de l'Algérie.
Ce fonctionnaire est soupçonné d'avoir transmis des informations confidentielles sur des ressortissants algériens installés en France.
Il est le nouveau président du Parti libéral au Canada. Il est aussi le nouveau Premier ministre du pays, Nadi Moubarak.
Le libéral Mark Carney prend la place de Justin Trudeau.
Nous reviendrons aussi sur l'élection en Suisse, cette fois d'un nouveau membre du gouvernement. C'est un moment politique important, Laurent Caspary.
Oui, et si vous n'en avez pas entendu parler dans le reste de la francophonie, pas de souci, nous avons l'habitude. Il n'empêche, cette élection traduit l'extraordinaire stabilité du système politique suisse. Imaginez, Martin Pfister, c'est de lui dont on parle, était un inconnu il y a encore 2 mois.
En France, les soignants n'en peuvent plus. Violences verbales et physiques, ils sont de plus en plus pris à partie. Un collectif s'est mobilisé ce mercredi à l'occasion de la journée européenne contre la violence dans les soins de santé. Enfin, ce coup de frein pour la mobilité en Belgique. Miles, l'entreprise allemande spécialisée dans les voitures partagées, quitte les 3 villes belges où elle s'était installée il y a 3 ans à peine, Jacques Crémers.
Oui, et cela fait 1400 voitures en libre service en moins. 2 ans après son arrivée, l'entreprise berlinoise de car sharing se dit victime du vandalisme, de l'utilisation abusive de ses véhicules.
Voilà donc pour le sommaire de cette semaine. C'est une révélation de l'agence France-Presse et du quotidien Le Parisien cette semaine. Un fonctionnaire du ministère français de l'économie a donc été mis en examen en décembre dernier pour intelligence avec une puissance étrangère. Il aurait livré des renseignements sur des opposants au régime algérien à un employé du consulat algérien de Créteil en région parisienne, Nicolas.
L'affaire commence en juin 2024, quand le contre-espionnage français est informé qu'un franco-algérien de 56 ans, cadre au ministère de l'économie, échangerait des informations confidentielles avec un employé du consulat d'Algérie, identifié comme un agent de la DDSE, les services de renseignements extérieurs algériens. Selon le journal Le Parisien, c'est lui qui aurait recruté le fonctionnaire, usant de divers moyens de pression pour le mettre à son service.
Oui, et les informations échangées portaient sur des personnalités algériennes installées en France.
Des opposants politiques, des journalistes ou des membres de la diaspora algérienne considérés comme influents. Ces informations, le cadre du ministère les aurait notamment obtenues d'une assistante sociale de l'Office français de l'immigration avec qui il avait noué une relation. Elle avait accès à des données sur la situation administrative des Algériens concernés, comme leur demande d'asile, et a été mise en examen, elle aussi, en février, pour violation du secret professionnel. Le fonctionnaire franco-algérien, lui, est poursuivi depuis le 19 décembre. décembre pour intelligence avec une puissance étrangère. Son avocat dénonce une campagne de menaces et de manipulation de la part d'une puissance qui aurait resserré son étau autour de lui. Quant à l'agent du consulat d'Algérie, lui n'a pas été arrêté car protégé par son immunité diplomatique.
Marc Carney est donc le nouveau Premier ministre du Canada. Son investiture a eu lieu ce vendredi, quelques jours seulement après sa victoire dans la course à la direction du Parti libéral. Nadi, il remplace donc Justin Trudeau.
Oui, d'ailleurs, la victoire de Mark Carney dimanche soir a été sans appel. Il a obtenu près de 86% des voix dès le premier tour de scrutin. Le nom de Mark Carney circulait dans les rangs libéraux pour succéder à Justin Trudeau depuis l'annonce de sa démission le 6 janvier dernier. Après des années à travailler dans l'ombre du gouvernement, l'économiste de carrière qui a été gouverneur de la Banque du Canada et par la suite le chef de la Banque d'Angleterre a donc réussi son pari de se lancer en politique active.
Alors dans le contexte actuel, on imagine, Nadi, que la guerre tarifaire lancée par le président américain à l'encontre du Canada sera en tête des priorités du nouveau Premier ministre.
Tout à fait, surtout que les États-Unis ont imposé des tarifs douaniers de 25% sur l'acier et l'aluminium canadien mercredi dernier. Mark Carney s'est dit prêt à parler directement avec le président américain des relations commerciales entre les deux pays, mais il exige que Washington respecte la souveraineté du Canada. Donald Trump a répété à plusieurs reprises vouloir faire de son voisin le 51e État américain. On écoute Mark Carney.
Nous sommes prêts d'avoir des discussions avec les Américains dans un sens compréhensif. Afin de relancer notre partenariat économique.
Mark Carney a aussi précisé vouloir travailler à la mise en place d'une approche commune et beaucoup plus globale pour le commerce.
Alors, quelle sera la suite sur le plan politique?
Eh bien, les observateurs s'attendent à ce que Mark Carney déclenche des élections fédérales rapidement, soit avant la fin de la prorogation du Parlement le 24 mars, d'autant plus qu'il n'a pas de siège à la Chambre des communes. En coulisses, les stratèges libéraux évoquent deux dates possibles pour la tenue du scrutin, le 28 avril ou le 5 mai.
Du changement aussi en Suisse cette semaine. Le pays a élu le centriste Martin Pfister comme nouveau membre du Conseil fédéral. Il va reprendre la direction de l'armée à un moment où les questions de sécurité agitent le monde entier et il est très attendu. Le département de la sécurité est secoué par plusieurs démissions importantes, mais ce qui frappe dans cette élection, c'est finalement la stabilité du système suisse qui fonctionne comme si de rien n'était dans un monde en ébullition.
Das Ergebnis der Wahl bekannt.
Résultat d'élection.
Gewählt ist mit 134 Stimmen.
Est élu avec 134 voix.
Martin Pfister.
Et voilà, c'est comme cela qu'est proclamée l'élection d'un membre de gouvernement en Suisse, un conseiller fédéral qui sera un jour par tournus le président de la Suisse. Ce qui frappe dans cette élection, c'est que l'heureux élu était peu ou prou un total inconnu du grand public il y a 2 mois à peine. Il s'en amuse d'ailleurs, écoutez-le.
Premièrement, il faut dire, mon nom est très connu, Pfister. L'autre Pfister est plus connu que moi. J'ai essayé de parler avec tout le monde. J'ai pas parlé avec tout le monde. C'est pas possible, mais avec tout le monde qui a voulu parler avec moi. Ouais, à la fin, c'est la décision des parlementaires, ce qu'ils veulent.
Oui, Pfister, un patronyme bien connu en Suisse et porté par certains cadors de la politique, dont Martin Pfister ne faisait pas partie car il était élu à l'échelle locale dans l'exécutif du canton de Zoug. À y regarder de plus près, cette élection est symbolique à bien des égards. Tout d'abord, elle s'est déroulée dans un climat très calme, très suisse, alors que le monde entier bouillonne par rapport à ce qui se passe aux États-Unis avec un Donald Trump qui souffle le froid et le chaud dans toutes les directions. Comme si la Suisse était hermétique à la fureur internationale, son système politique complexe a fonctionné comme une horloge pour se renouveler progressivement. Mais derrière ce calme apparent, les enjeux sécuritaires existent bel et bien. Le fait que Martin Pfister soit un colonel à l'armée et qu'il a avoué être plus à l'aise dans une caserne que dans les travées du Parlement n'est pas étranger à son élection. Les attentes autour des questions sécuritaires sont nombreuses et quelque part, la Suisse a élu cette semaine un chef militaire, comme quoi la situation internationale a bel et bien pesé sur son accession au gouvernement.
C'était Laurent Caspary pour la radio Télévision Suisse.
L'accent des autres.
Insultes, blessures, harcèlement et traumatismes psychologiques, les soignants n'en peuvent plus en France notamment. Alors un collectif qui représente des professionnels de la santé a appelé mercredi dernier à la mobilisation à l'occasion de la journée européenne contre la violence dans les soins de santé. Il faut dire que les soignants de toutes les professions de santé vivent la violence à la fois verbale et physique. Quasiment au quotidien. Aurélie Loquet est allée à la rencontre de soignants qui ont été agressés physiquement ou menacé en Alsace.
On a eu trop peur, je veux dire, on va à un couteau qui est comme ça, on n'a pas d'armure, on n'a pas de gilet pare-balles, on arrive et on ne sait pas toujours ce qui nous attend.
Ce jour-là, Myriam Kerkoub, infirmière libérale à Strasbourg, se rend au domicile d'une patiente pour tenter de convaincre sa fille de mettre en place un autre traitement. Elle est contre.
J'ai continué quand même à négocier, à discuter, ça a énervé le gendre en fait. Ça l'a énervé, puis il m'a sorti un cran d'arrêt. On est démunis hein, face à ça, hein. On n'a personne, hein. On est tout seul. Hein.
Seul face à une menace, une réalité vécue aussi par Véronique Bier, infirmière libérale à Mittelhausbergen.
J'étais séquestrée.
Séquestrée au domicile d'une patiente qu'elle suivait depuis un moment.
Un soir, j'arrive pour lui donner ses médicaments, et là, sa mère, elle m'enferme, et elle me dit « Vous restez avec moi, ma fille, ça ne va pas du tout ». La fille avait déjà, que l'on suivait, avait déjà agressé sa maman auparavant. Et là, elle m'enferme. Et la fille était en délire paranoïde complet. Alors heureusement, elle n'était pas agressive ce jour-là.
Après quelques coups de fil, Véronique Bier obtient l'intervention de la gendarmerie. Elle s'en sort cette fois sans blessure physique. Mais plus récemment, elle a été frappée par une autre patiente. À Mulhouse, c'est par des tirs de fusil à plomb que Mathieu Herman, président de SOS Médecins, a été touché lors d'une visite à domicile.
J'étais appelé pour aller voir sa compagne. Et en fait, le monsieur a directement été agressif, insultant, véhément. Il m'a menacé de me tirer dessus. Et en fait, sa menace à exécution. Hein. Il s'est levé, il a chargé son fusil, il m'a mis en joue. Il m'a plaqué contre la porte et puis après, il m'a tiré dessus.
Mathieu Herman s'en tire avec des hématomes et le risque d'une nouvelle agression, toujours dans un coin de la tête. Des agressions au domicile des patients, dans les cabinets, à l'hôpital. Il y a 2 mois, une aide-soignante a pris un coup de poing suivi d'un arrêt de travail à l'hôpital de Haute-Pierre. Quant aux agressions verbales, elles sont encore plus répandues, voire banalisées. Christian Prudhomme, secrétaire général FO du CHU de Strasbourg.
Il y a une acceptation qui pour moi n'est pas normale, mais qui s'est faite avec les années. Je veux dire, il y a peut-être 20-25 ans, on n'acceptait pas un mot plus haut que l'autre. Aujourd'hui, ce sera surtout le geste physique qui va faire qu'on dépose plainte. Mais c'est vrai que l'agression verbale est très rarement relevée de nos jours.
Le CHU du 12 mars qui appelle à la mobilisation aujourd'hui demande donc la mise en place de sanctions dissuasives.
Reportage d'Aurélie Loquet pour Ici Alsace. Enfin, ce n'est pas une bonne nouvelle pour la mobilité en Belgique. La société allemande de voitures partagées Miles Plibagage, pour se recentrer sur l'Allemagne. Les chiffres d'utilisation évoluaient pourtant plutôt bien, mais les gestionnaires mettent en avant de trop nombreuses incivilités, Jacques.
Voilà une déclaration qui en effet n'est pas passée inaperçue. À Bruxelles, où se concentre la majorité de ces véhicules, le taux de vandalisme est incomparable avec toutes les villes allemandes. C'est le patron de la société de car sharing Miles, leader sur le marché allemand, qui le dit. Installé à Bruxelles, Anvers et depuis 2022, l'opérateur dit connaître une évolution positive de l'utilisation de ses voitures, mais les abus, les incivilités et les tentatives de vol, surtout à Bruxelles, coûtent trop cher, et tout cela au détriment de ses 180 000 utilisateurs.
La vérité, il y a beaucoup de problèmes avec Miles. Très souvent, les voitures sont endommagées, etc. C'est la deuxième que je prends de la journée. J'attends mon remboursement.
Déjà que le service est cher, si en plus on arrive dans un véhicule qui est un petit peu saccagé ou qui sent la clope ou ce genre de choses, voilà quoi, ça donne plus trop envie d'utiliser le service. Et eux, j'imagine même pas le coût que ça doit être pour rénover tout ça et remettre en état, donc je comprends leur départ.
Les 1400 voitures partagées de l'opérateur Miles seront retirées à la fin du mois d'avril. Miles Party reste Cambio, qui a essaimé progressivement et durablement aussi dans près de 150 villes, et Poppy, qui lui aussi connaît des problèmes de vandalisme. Fin 2024, cet opérateur avait décidé de retirer ses véhicules déployés à Liège, aussi en raison des incivilités, des comportements qui donc menacent le développement de cette alternative durable à la mobilité automobile.
Voilà, c'est avec Jacques Kremer, c'est la RTBF que l'on va se quitter cette semaine. Merci d'avoir été au rendez-vous de l'Accent des Autres. On se fixe, si vous le souhaitez, rendez-vous dans 8 jours. Même endroit, même heure. Il me reste à vous souhaiter une excellente fin de semaine.
Et merci à vous, Olivier Nederland. Excellente fin de semaine à vous aussi, RFI. 5h24, ici à Paris, l'heure d'aller voir ailleurs.
Vivre ailleurs.
Et direction les fastueux salons du Quai d'Orsay, siège du ministère des Affaires étrangères à Paris. où se sont tenus cette semaine les 13e Français des Français de l'étranger, compétition organisée par lepetitjournal.com, site de référence pour les Français expatriés, trophée qui vise à mettre en valeur les meilleurs d'entre eux. Corinne Manjou s'est rendue dans les allées du Quai d'Orsay à cette remise de prix.
Je suis très très heureux, très honoré d'avoir reçu ce prix, entouré de membres de ma famille et d'amis, voilà, de gens que j'aime. Donc voilà, c'est super d'avoir l'opportunité et la chance de recevoir ce prix entouré de gens qui me sont chers, voilà.
Expatrié au Royaume-Uni, Xavier, lui, fait partie des 7 lauréats de cette 13e édition. Fondateur de l'application Five Lives, dédiée à la prévention de la maladie d'Alzheimer, il a été primé dans la catégorie Impact Social. Hervé Hérault, l'initiateur des trophées, est le président et le fondateur des éditions lepetitjournal.com.
On a quand même une nouveauté. Pour la première fois, on va remettre un trophée coup de cœur. En fait, c'est Laurent Saint-Martin, le ministre délégué aux Français de l'étranger, qui va remettre pour la première fois donc le trophée coup de cœur à Priscilla Routier, qui est la fondatrice de Solidarity et de la plateforme Save You, qui vient en aide aux victimes de violences conjugales en leur apportant une aide de mise en sécurité, de mise à l'abri, éventuellement même de rapatriement.
Priscilla Routier-Triard, la lauréate coup de cœur du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, vit à Abu Dhabi. Son application Sorority est gratuite et traduite en 15 langues. La plateforme Save You est dédiée aux expatriés français victimes de violences, qu'elles soient homophobes, conjugales et ou intrafamiliales. La réaction de Priscilla à la remise de son prix.
Très heureuse après tout le travail qu'on a fait sur le terrain. C'est un grand gap qui est passé. Il y a encore des très belles choses qu'on va pouvoir faire ensemble. Donc très très heureuse.
Établi à Amsterdam depuis 2020, Julien Balanqueux, le lauréat prix du public, a créé Techmakers, un réseau d'événements tech pour accompagner les startups. En 4 ans, ce réseau a déjà accompagné 150 startups. Le trophée éducation est allé à Pascal Jousse. Établi à Casablanca au Maroc, ce professeur est aussi scénariste et créateur de contenu avec ses élèves, diffusé sur sa chaîne YouTube. Arthur Genre, le lauréat du trophée Influence, vit à New York et crée des contenus sur l'histoire et la culture américaine. Ce trophée Influence est parrainé par l'ISG, l'Institut supérieur de gestion.
Bonjour, c'est Thierry Sebag, le directeur général de l'ISG. Et c'est nous qui, effectivement, parrainons le trophée de l'Influence. Ce qui nous a séduit chez ce lauréat, d'abord, c'est l'extrême qualité de ce qu'il fait. C'est un garçon qui part aux États-Unis, qui crée une communauté, qui a énormément d'engagement avec cette communauté, qui fait attention à ce que ses vidéos soient extrêmement léchées. Ce garçon passe plusieurs semaines avant de sortir une vidéo. Vous dites, ah oui, il y a du travail, il y a du fond, il y a de la culture. Voilà, c'est ça qui nous a plu sur ce profil d'Arthur Genre.
Cédric de Giraudy, le lauréat du trophée humanitaire, vit dans un village reculé dans la forêt du Maranhão au Brésil, où il a fondé une école pour enfants en difficulté de 5 à 13 ans. Il est très ému de cette reconnaissance.
Forcément très fier, très heureux, c'était une super soirée. Je pense à tous les gens qui m'aident au Brésil, bien évidemment.
Qu'est-ce que vous allez faire ce soir? Une coupe de champagne pour arroser?
Oh, je suis pas très alcool, mais mes parents sont là, ma famille est là, donc passer un peu de temps avec la famille, ouais.
Bravo.
Merci beaucoup.
Si Cédric de Giraudy préfère passer du temps avec les siens, pour tous les autres, à l'instar de Xavier, lui, une coupe de champagne s'impose avant toute autre chose.
Oui, oui, même peut-être plusieurs, au moins pour un soir, pour faire une pause et profiter.
Le trophée des anciens élèves des lycées français du monde a été remis à Pomme Madejian, expatriée à Kuala Lumpur et fondatrice du Festival international des auteurs francophones en Malaisie. Elle a fréquenté 4 lycées français, au Yémen, au Vanuatu, au Luxembourg et au Liban.
Voilà, on voyage avec Vivre Ailleurs et Corinne Manjou. Corinne, qu'on retrouvera demain pour un nouveau numéro. Ne changez rien, même radio, même horaire. Et c'est ainsi que se termine cette demi-heure d'info. Merci à Benoît Vandenbroek, à la réalisation Jeanne Bartoli, à la rédaction en chef. Restez bien avec nous. Dans un instant, le retour de l'info africaine sur RFI, ce sera avec Nemo en piste. Nous serons à Kinshasa, comme à Pretoria, tout de suite.
Pour nous écrire, RFI, 80 rue Camille Desmoulins, 92 130 Issy-les-Moulineaux, France. Ou sur notre site internet www.rfi.fr.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Qu'est-ce que le franc CFA? Par quel bout l'apprendre cette histoire que l'on ne comprend pas? Avec Cathy Lennan Ndiaye, réalisatrice du documentaire L'argent et la liberté, une histoire du franc CFA, nous remontons le fil de notre longue histoire commune. Une invitation à accepter le dur labeur de contester le savoir acquis.
La marche du monde. Valérie Nivelon.
À tout à l'heure, à 14h10, temps universel sur RFI.
Géopolitique.
Réélu président des États-Unis, Donald Trump réaffirmait en janvier dernier qu'il voulait reprendre le contrôle du canal de Panama, reliant les océans Atlantique et Pacifique à travers ce pays d'Amérique centrale auquel il appartient depuis 1999. Il a été construit par les Américains. La crise générée par Trump sur le Panama ne manquera pas d'avoir des implications importantes en Amérique latine. Des spécialistes nous livrent leur regard dans Géopolitique, proposé par Marie-France Chatin, tout à l'heure à 18h41.
RFI.